Sur quelques versets dans le chapitre 2 du livre des juges. J'ai médité dernièrement dans ce livre. J'ai pensé que ce serait profitable de lire quelques passages dans le livre des juges. Et au verset 10 du chapitre 10. Toute cette génération, celle qui a suivi Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur de l'Éternel. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les vendit entre les mains de Cushan-Rishetaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishetaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishetaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishetaïm, et le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, etc. Dieu va certainement bénir la lecture de sa parole. Il y avait un prédicateur très capable en Suisse une fois, dans une réunion. Il a seulement lu un texte. Et puis après la réunion, un frère lui a dit, c'est le plus beau message que vous ayez jamais donné. La simple lecture publique, respectueuse de la parole de Dieu est une bénédiction pour nos âmes. Ce soir, j'aurai à cœur de vous parler un peu de ce livre, du livre des juges, dans lequel j'ai médité dernièrement et duquel j'ai été tout à nouveau frappé. Frappé de la faiblesse des instruments que Dieu emploie. On voit dans ce livre que Dieu se plaît à se glorifier par la faiblesse des instruments qu'il emploie. Et à ce sujet, j'aimerais, pour rafraîchir nos mémoires, vous inviter à tourner dans quelques textes du Nouveau Testament qui nous le disent d'une façon claire et concise. Comment Dieu se plaît à se glorifier dans ce qui est insignifiant aux yeux des hommes. Lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens. Vous pouvez garder la place si vous n'avez pas l'habitude de trouver les livres des juges, on va y revenir. 1 Corinthiens, premier chapitre. Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lisons encore dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 4. Et au verset 7, après avoir dit, fait part des révélations que l'apôtre Paul avait eues, et avoir dit que Dieu fait briller sa lumière dans nos cœurs, il dit au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et dans le même livre, 2 Corinthiens au chapitre 12, lisons au verset 9, l'apôtre Paul, après avoir parlé de ses visions qu'il a eues, qui parle de l'épreuve, l'écharpe dans la chair qu'il a eue, il dit au verset 9 que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On a dit que la seconde épître de Paul aux Corinthiens, c'est l'épître des paradoxes. Ça veut dire des choses apparemment contradictoires. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que quand on sent véritablement notre faiblesse, c'est alors qu'on a la force de Dieu. Parce que Dieu veut toute la gloire pour lui. Et dans le chapitre 4, l'apôtre Paul a dit aussi que sa puissance s'accomplit. Donc dans le chapitre 4, il a dit que au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. D'une part, un trésor d'une valeur inestimable, la connaissance de Christ, dans des vases de terre. Il n'y a rien de plus fragile qu'un vase de poterie qui se casse facilement. On en avait un chez nous une fois, puis une de nos petites filles, elle a tiré la nappe, le vase est tombé par terre, il s'est cassé. Alors, on voit donc c'est ce contraste. Dieu se plaît à se glorifier dans ce qui est insignifiant. Dans le premier chapitre de l'épître, premier épître aux Corinthiens, Dieu dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages ni beaucoup de nobles. Évidemment, ça veut pas, c'est pas parce que la parole de Dieu met son sceau sur l'ignorance. On a dit, Dieu n'a pas besoin de notre grand savoir, mais Dieu n'a pas non plus dit qu'il se glorifie nécessairement quand on est ignorant. Parce qu'au contraire, on doit certainement chercher à se cultiver et apprendre à mieux connaître la parole de Dieu. Dans tous les domaines de la vie, la parole de Dieu ne recommande pas l'ignorance, loin de là. Il suffit de lire le livre des Proverbes pour voir que, même dans les choses de la vie, on doit toujours chercher à apprendre et apprendre davantage. Parce que plus on sait, plus on apprend, plus on voit qu'on ne sait rien. Bien, dans le livre des juges, nous avons, pour ceux qui sont peut-être pas au clair, il s'agit d'environ 1100 ans avant Jésus-Christ. Je crois que le roi David, Salomon, a été au fait de son règne, au moment le plus glorieux de son règne, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et le livre des juges, c'est environ 11 siècles avant Jésus-Christ. Quand on lit la Bible, en particulier l'Ancien Testament, c'est très intéressant d'avoir toujours une idée de la chronologie, savoir à peu près quand les événements se sont passés. Ça nous aide à la compréhension de l'Écriture et à voir comment Dieu s'est révélé dans le temps, parce que la révélation de Dieu a été progressive et s'incarne dans le temps. Le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, Pentateuque, ça veut dire les cinq rouleaux, parce que dans ce temps-là, les livres, c'était des rouleaux. Le Pentateuque, vraiment, nous rapporte, à part le début de la Genèse surtout, les conseils et les voies de Dieu, comment Dieu voulait agir. Et la pensée dominante, c'est l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu. Mais à partir du livre de Josué, on a plus particulièrement l'histoire de l'homme, ce dont l'homme est capable, et comment Dieu veut conduire son peuple. C'est vrai qu'il y a, c'est pas absolu ce que je viens de dire, c'est relatif. Néanmoins, c'est quand même cela dans les grandes lignes. Et dans le livre des juges en particulier, on voit évidemment l'homme dans son héritage. Dans le livre de Josué, c'est un livre de conquête. Josué, à la tête de l'armée de l'Éternel, du peuple d'Israël, il a conquis ce pays que Dieu leur donnait. Et on sait bien que Dieu voulait leur donner ce pays, mais il avait dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est la même chose au point de vue spirituel. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous enrichir, mais ça n'enlève pas notre responsabilité de nous emparer des richesses que Dieu veut nous donner, de conquérir. Et le parallèle de Josué, c'est l'épître aux Éphésiens. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois que je suis venu, sauf erreur. Bien, dans le livre des juges, on voit Israël qui habite au milieu de ses ennemis. Et il y a quatre mots qui commencent par la lettre D et qui pourraient résumer ce livre des juges. Le premier, c'est désobéissance. Le second, c'est discipline. Le troisième, c'est détresse. Et le quatrième, c'est délivrance. désobéissant. Israël a été un peuple désobéissant. On l'a vu là, ils abandonnèrent l'Éternel. Abandonnèrent l'Éternel. C'est l'histoire de l'homme, notre histoire, qui facilement nos cœurs sont portés à oublier Dieu. Et c'est une lutte. Si ça vous arrive, vous n'êtes pas autrement que d'autres. De s'éloigner de Dieu, c'est le propre du cœur naturel. Et on voit évidemment ce péché qui caractérisait Israël, qui était un peuple idolâtre. Il y a trois grands péchés qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité et dans la ville de Montréal. Corruption, violence, idolâtrie. Ça, c'est les trois péchés qui sont dans la Genèse, au début de l'histoire de l'homme, sitôt qu'il est sorti du jardin d'Éden et que le péché a commencé à se développer comme une lèpre, comme un cancer. Alors, corruption, violence et idolâtrie. Les Baals et les Astartés. Les Baals, c'est les faux dieux masculins. Les Astartés, c'est les déesses. Parce que les païens, évidemment, il y a un dieu homme dans le ciel, sans qu'il y ait de femme, va s'ennuyer. Alors, évidemment, il y avait toujours les Astartés. C'est ça qu'on voit souvent dans la Bible, les Baals et les Astartés. Les Astartés, c'est les déesses. Et les Baals, c'est les faux dieux. Ainsi, Israël, habitant au milieu de ses ennemis, aurait dû être, d'abord, ils auraient dû les chasser, ils auraient dû être un peuple séparé. Eh bien, ils ont été vaincus. Ils ont été désobéissants. Ce qui les a caractérisés, c'est d'abandonner le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Et on voit dans ce livre, comme ailleurs, Dieu les ramène toujours à la sortie d'Égypte, à la rédemption. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut toujours nous ramener à nous rappeler comment nous avons été sauvés, délivrés. C'est vrai qu'on a dit avec justesse que être chrétien, ce n'est pas se rappeler du jour de notre conversion. On pourrait se gargariser en pensant au jour de notre conversion et avoir peu de réalité pratique dans notre vie. C'est vrai que être chrétien, c'est vivre la vie du Seigneur Jésus tous les jours. Néanmoins, on doit toujours se rappeler de la croix. Et c'est pour ça que le dimanche matin, on est centré sur le mémorial de la rédemption. Le Seigneur Jésus lui-même, qui est le Rédempteur et la rançon, tout à la fois. Le prix de la rançon, le prix de notre rédemption plutôt. Parce que quelqu'un pourrait bien payer un prix pour une rédemption, payer la rançon. Quand les ravisseurs prennent quelqu'un, un pays ou un individu, un moyen peut payer la rançon. Il est le Rédempteur, mais il n'est pas la rançon. La rançon, c'est le montant qui est donné. Le Seigneur Jésus est tous les deux à la fois. Il est le Rédempteur et la rançon. Et Dieu veut que sans cesse, on se rappelle combien cher a été payé notre salut. Et c'est pour ça que Dieu ramène toujours Israël en leur disant, je vais faire sortir du pays d'Égypte. Je vous ai amené dans ce pays découlant de lait et de miel. Alors le peuple d'Israël, donc, était désobéissant, Dieu les discipline. Dieu châtie son peuple. Et on voit ça dans l'Écriture. C'est un mot qui n'est guère à la mode aujourd'hui. On n'aime plus la discipline. On aime à faire ce qu'on veut. J'ai entendu dire même que, dernièrement, même aux États-Unis, ils se donnaient, dans l'État de la Floride, des cours de myologie. Myologie, ça veut dire du moi, la culture du moi. Chacun veut faire comme il veut, mais il ne veut pas s'astreindre à une discipline, c'est-à-dire à l'obéissance de quelqu'un d'autre, ou s'astreindre à des règles. On veut faire ce qui nous plaît, comme on veut, comme ça adonne, comme le monde dit. Évidemment, ça, ce n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de disciple sans discipline. C'est presque un vérité à la palisse. Alors, Dieu a châtié son peuple, parce qu'il n'était justement pas discipliné. Dieu l'a puni. Et on voit le peuple crier à l'Éternel. La détresse, bien, c'est un sentiment d'abandon quand on est dans la détresse, quand on se sent seul, de solitude, d'impuissance. C'est une situation pénible, poignante, quand on est dans la détresse. Et c'est ce que le peuple d'Israël était. Ils se sentaient abandonnés de Dieu, effectivement. Dieu les laissait, comme on l'a lu, il les laissait entre les mains de leurs ennemis. On voit ça dans l'Écriture, Dieu se sert des méchants pour châtier son peuple. Dieu se sert du monde inconverti pour discipliner son peuple. On voit ça tout au travers de l'histoire. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu se servit de Nebuchadnezzar pour châtier Israël, pour les emmener en captivité. Mais Nebuchadnezzar a été tellement méchant que finalement c'est lui qui a été puni. Parce que Dieu, même quand il châtie, est un Dieu de mesure et de grâce, jusque dans ses châtiments. Il met un terme à l'épreuve. Mais Dieu les châtiait. Et le peuple criait. Et ils se repentaient. Et Dieu les délivrait. Désobéissance, discipline, détresse et délivrance. On voit cette séquence tout au travers de ce livre des juges. Et on voit dans la parole de Dieu, une chose qui est claire dans ce livre-là, c'est que notre foi, la vitalité de notre foi, doit s'épanouir dans un climat de tension, où il y a des ennemis. On aimerait bien qu'il n'y ait pas d'ennemis, mais il y avait des ennemis. Et de tout temps, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était littéral, dans le Nouveau Testament, c'est spirituel. Parce que ce qui est littéral dans l'Ancien devient spirituel et moral dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, on se rappelle du peuple d'Israël, en Égypte, pendant 400 ans, asservi comme des esclaves, comme la parole de Dieu dit, dans une fournaise de fer, qui devait travailler dur, être martyrisé. Ils étaient en Égypte. À peine sortis d'Égypte, on se rappelle, il y avait les Philistins, il y avait les Moabites, les Ammonites, des tribus apparentées, parce que Moab et Ammon, c'était des descendants de Lot, que Lot avait eu avec ses filles quand il a échappé de Sodome. Alors c'était des apparentés du peuple d'Israël, des tribus qui étaient devenues des ennemis d'Israël. Et il y avait les Madianites, les Amalekites, les Assyriens, les Babyloniens plus tard, tout au travers de l'histoire, et on en a lu, les Jébusiens, les Cananéens, les Héviens qui habitaient le pays, etc. Et ces peuples-là étaient des ennemis d'Israël. Et Dieu s'en servait comme un instrument dans sa main pour châtier son peuple rebelle et désobéissant. Comme Dieu les a appelés, un peuple contredisant. Ainsi, aujourd'hui aussi, Dieu se sert du monde et de ce qui est mal, même pour nous éprouver, pour tester notre foi. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'on vive dans un monde où ce soit tout facile. Parce que comme chrétiens, on a à faire face à des ennemis. Des ennemis, pas nécessairement des personnes, quoique le mal peut évidemment être véhiculé par des personnes. Mais nos ennemis ne sont pas des personnes qu'on doit haïr, puisqu'on doit aimer même nos ennemis. Mais on ne doit pas aimer le mal. Et on est dans un monde où tout nous est opposé. En nous, la chair, le monde comme système, et le prince de ce monde, le chef de ce monde, puisque prince veut dire chef dans la Bible, eh bien, qui est aussi Satan, qui est opposé à Dieu. Dans la Bible, Satan est opposé au Seigneur Jésus-Christ, hein, il a tenté. Le monde est opposé au Père, celui qui aime le Père, qui aime le monde est ennemi de Dieu, le Père. Et puis, l'esprit combat contre la chair et la chair contre l'esprit, Galates chapitre 5. Donc, on a aussi des ennemis, comme Israël, il y a des leçons à retirer. Mais, on voit justement dans ce livre que Dieu est plus grand que nos ennemis et que Dieu peut donner la victoire malgré tous les ennemis. Ce qu'on a lu aussi au début, et je devrais mentionner, souligner, c'est que cette génération a passé. Ceux qui avaient connu, évidemment, la sortie d'Égypte étaient morts dans le désert, comme on sait, et les premiers qui avaient connu Josué étaient décédés aussi, n'étaient plus là. Et on peut dire que le livre des juges est un peu semblable, comme période, à ce que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous ce soir, au lieu d'avoir Jean-Paul Bernet de Sainte-Foy devant vous, si vous aviez quelqu'un qui disait « J'ai connu l'apôtre Jean, je vivais avec lui à Éphèse, Je l'ai connu personnellement. Vous l'écouteriez, hein? Ou quelqu'un qui dirait, j'ai voyagé avec Paul, j'étais avec lui dans le naufrage. On écouterait, hein? Ce serait quelque chose. Et c'était quand même aussi ce temps-là, avant la monarchie. Et un refrain qui vient à la fin, deux fois, à la fin du livre des juges, il n'y avait pas de roi en Israël à ce temps-là. Et chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Et c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. On n'a plus personne de ceux qui ont vu, qui ont connu les apôtres. Et le Seigneur Jésus n'est pas encore là. C'est pas encore le règne. C'est pas encore le règne. Le Seigneur Jésus est là, un esprit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais un esprit, sa personne n'est pas là. Il n'est pas là pour régler les comptes et trancher tout ce qui est en litige. Alors on est entre les deux aussi. Comme dans ce temps-là, ils étaient plus, ceux qui avaient connu Moïse et Josué, ils n'étaient plus là, et puis il n'y avait pas encore de roi. Alors c'est comme nous aujourd'hui, on est dans une période entre les deux, et c'est difficile. On a dit que dans une course, le plus difficile, c'est pas le départ. Moi je suis pas tellement habitué d'aller voir des courses, mais je sais qu'au départ les coureurs, ils sont tous gonflés, pompés pour partir à toute vitesse. Et quand ils arrivent, qu'ils voient le but, l'arrivée est en vue, un dernier sprint final, ils ont du courage, mais l'entre-deux, c'est le plus difficile. Et dans la vie chrétienne, c'est aussi le plus difficile. Nouveau converti, nouveau sauvé, il y a du zèle, on n'est pas encore au courant des choses qui se passent parmi les chrétiens. On pense que tous ceux à qui on va annoncer l'évangile vont dire, mais tu me fais donc plaisir de me parler de ça, parce qu'on est tout content d'avoir été sauvé. On croit que les autres vont l'être aussi. Quand on est plus âgé, peut-être presque sur le point de quitter ce monde, eh bien, on est déjà un petit peu plus près du ciel, mais l'entre-deux, comme la plupart de nous, pour ne pas dire nous tous, c'est le plus difficile. Mais c'est le moment où il faut justement pas faiblir, parce que c'est ce qui peut faire toute la différence aussi. Ce qui peut faire toute la différence. Alors, il nous faut donc nous encourager. Et lire ce livre qui nous montre des gens fidèles, mais faibles. Faibles. Des gens qui sentaient leur faiblesse. On n'aura pas le temps ce soir de voir en détail toutes ces personnes. Il y a eu 13 juges. 13 dans la Bible, c'est le chiffre de la confusion. Dans la Genèse, la 13e année, ils se révoltèrent. Dans la Bible, vous savez, tous les chiffres ont une signification symbolique. Le chiffre 13, c'est le chiffre indivisible, sinon par lui-même. Chiffre de la confusion. Donc, il y a eu 13 juges. Donc, une femme, Déborah. Et tous ces gens-là sentaient leur faiblesse, mais ont été pour Dieu, dans une mesure, quand même des gens utiles pour Dieu. Savez-vous que l'utilité d'un chrétien dans l'assemblée et dans le peuple de Dieu en général ne se mesure pas nécessairement à la grandeur de nos dons. On pourrait être doué et charnel. Chez les Corinthiens, il ne vous manque d'aucun don, mais vous êtes des enfants en Christ. Que Dieu vous donne du lait et non de la viande. On peut être doué. Et s'il y avait un homme dans les juges qui était doué, puisque sa force est devenue proverbiale, fort comme Samson, mais qui a été charnel, c'est bien Samson, qu'on voit très souvent, je crois que 5 fois, il est dit, il descendait toujours. Je me rappelle que M. Desvies en avait parlé une fois, soit à une conférence ou à 5 fois. Le Samson, pauvre Samson. Mais il a quand même été utile dans une mesure, mais s'il avait été fidèle, il aurait été beaucoup plus utile. Alors, on voit qu'il y a de la place, évidemment, pour le progrès. Bien, Dieu est grand, il est plus grand que la faiblesse de son peuple. Aujourd'hui, pareil. Le peuple de Dieu est dans la faiblesse. On a beau lire certains rapports de missionnaires ou même de ce qui se passe ici, de certains milieux où il y a un peu de succès dans l'Évangile, on est dans des jours de faiblesse, incontestablement. des jours de faiblesse et de mondanité. Mais Dieu est plus grand, il sait, il voit, il entend son peuple et il peut nous délivrer. Il peut se glorifier parmi nous dans notre faiblesse si nous voulons seulement mettre à sa disposition ce que nous avons. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. Il faut prier pour la victoire, sachant que la victoire vient de Dieu, mais il faut lutter de toutes nos forces. Quelqu'un a dit, et bien dit, il faut prier comme si tout vient de Dieu, faire notre mieux, tout en sachant que le succès vient de Dieu. Et en se rappelant que Dieu a pas dit qu'il va nécessairement bénir le succès ou le grand nombre, mais plutôt la fidélité. Eh bien, dans le livre des Juges, on voit Othniel. On va lire ici dans le chapitre 1er, au verset 3, on va lire. Chapitre 3, au verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. J'aurais dû dire aussi que dans les juges, le mot juge, ça veut dire libérateur. Et vous l'avez ici, leur suscita un libérateur. Juge n'est pas dans le sens juridique du terme, mais dans le sens d'un libérateur. Quelqu'un qui gouvernait, pas qui jugeait nécessairement le mal, mais qui gouvernait, dans la personne d'Othniel, voyez-vous verset 9, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Et c'est intéressant de remarquer que le mot Othniel, vous savez que dans la Bible, les noms ont leur importance. Othniel, ça veut dire Dieu est fort, ou ma force est en Dieu, ou littéralement l'union de Dieu. Dieu est fort, ou ma force est en Dieu. Alors, son nom déjà, hein, elle, c'est Dieu en hébreu. Donc, déjà là, on voit un homme qui est pieux et qui sait où trouver la force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je disais dimanche aux chrétiens à Québec, une fois j'ai été invité, ou plutôt autorisé, à prêcher dans une église catholique. Il y avait à peu près 600 à 800 personnes. C'était l'enterrement d'un de mes beaux-frères. Le curé, me connaissant, m'avait autorisé, longtemps avant que des laïcs prêchent dans les églises. Bien, quand j'ai su qu'une couple de jours avant l'enterrement, que le curé me permettait, puis qu'il m'avait dit carte blanche. Donc, je pouvais dire ce que je voulais. Mais je ne voulais pas non plus l'insulter, parce que je voulais quand même être assez diplomate. Mais je voulais être fidèle. Je pense que j'ai vraiment prié, comme pas souvent de ma vie, pour que le Seigneur me donne la force, la propos, la clarté nécessaire pour annoncer l'Évangile sans être blessant, vu qu'il me donnait la permission. Et réellement, j'ai senti dans l'Église catholique, il n'a pas voulu que je monte en chair, j'ai parlé dans le cœur, il avait installé un micro dans le cœur, une grande église de campagne avec du monde sur le jubé tout autour, là. J'ai senti la présence du Seigneur avec moi. Quand j'ai peut-être senti, je me suis peut-être senti le plus faible. Et je sentais ma faiblesse. J'avais peur. J'avais juste un micro en avant de moi, même pas de tribune pour me tenir. Mais le Seigneur m'a vraiment encouragé. J'ai senti la présence de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre? J'irai n'importe où, à la mort avec toi. Il a renié le Seigneur devant une servante. Et je me rappelle quand j'allais à l'école, j'avais appris une poésie. Moi, disait petit Paul, je n'ai pas peur du loup. Survint une mouche. Puis le petit gars qui se sauve. Voyez-vous, pas peur du loup. Il arrive une mouche, le petit gars tout tremblant. Alors voyez-vous, c'est les enfants, c'est des adultes non masqués. C'est des adultes non masqués, les enfants. On voit chez les enfants comme nous sommes nous. Ainsi, on peut se penser fort, mais dans le fond, on est bien faible. Et quand on se pense fort, c'est justement le prélude à la chute. Alors, ma force est en Dieu. Ça, c'est Othniel. Le deuxième, chapitre 3, toujours, au verset 15e, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements, du côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Eglon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra dans la lame, après la lame, et la graisse se referma autour de la lame. Et il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Et il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un échappa. Et en ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, ou à bœuf plutôt. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Ehud, ça veut dire fort. Mais gaucher. Maintenant, notez bien, chers amis, je ne voudrais pas blesser personne. Si quelqu'un écrit de la main gauche, si vous avez une belle écriture, tant mieux. Mais on est quand même dans un monde où tout est fait pour les droitiers. Et dans la parole de Dieu, à quelques reprises, les gauchers, c'est le contraire du normal. Non, on sait bien qu'aujourd'hui, avant, on forçait les enfants qui étaient gauchers, on les obligeait d'écrire avec la main droite, contrairement à ce qui était naturel. Aujourd'hui, on l'est, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas mal. Mais dans la parole de Dieu, néanmoins, être gaucher, c'est quand même le contraire du normal. C'est pas ce qui se fait d'habitude. Et on sait bien que ça a passé dans notre vocabulaire, quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui n'a pas le tour. Hein? Faire une manière, une chose gauche, c'est s'y prendre de travers. Et lui était handicapé. J'aurais dû dire que Othniel, il était lui un cadet fils, il était descendant d'un fils cadet de Caleb. Et dans la Bible, on sait que l'aîné est celui sur qui repose la bénédiction. Alors il était handicapé dans ce sens qu'il était descendant d'un cadet. Mais là, on a un homme gaucher, mais un homme qui sait manier les pays. Un homme qui sait manier les pays. Maintenant, peut-être, en lisant cette histoire, vous avez dit, ouais, Dieu était en faveur de choses pas mal cruelles. Certains ont dit, Dieu est un Dieu sanguinaire. Mais il faut se rappeler que ces tribus que Dieu voulait détruire, c'était des idolâtres, c'était des gens qui avaient des pratiques immorales que Dieu voulait juger. C'est pas sans raison. Et il ne nous appartient pas, nous, de nous penser bons et puis de juger Dieu parce que Dieu voulait les détruire. Dieu voulait qu'il détruise ces peuples, pas qu'il les martyrise, pas qu'il les laisse habiter avec eux, mais Dieu voulait les détruire. Il les a laissés avec eux pour les éprouver. Mais à l'origine, Dieu voulait qu'ils soient mis à mort. Ainsi, on voit Ehud, qui est gaucher, qui sait manier les pays, et qui a tué Eglon, qui était le roi des Moabites. Ainsi, Dieu a délivré pendant 80 ans son peuple grâce à cet homme. Maintenant, on voit là quelqu'un qui avait un certain handicap, mais qui savait manier les pays. Il y a tellement de chrétiens qui pensent, ou je devrais dire plus précisément, qui s'imaginent qu'ils seraient plus fidèles s'ils étaient dans la peau de quelqu'un d'autre. Ah, si j'étais comme un tel. Ah, si j'étais ceci ou cela. Comme ceci ou comme cela. Ça, c'est une idée qui est une fausse idée. C'est une erreur de penser que je pourrais être plus fidèle si c'était autrement. Ou si j'avais des talents que je n'ai pas. Ou des dons que d'autres ont. C'est une erreur. C'est une erreur. Dieu peut se servir de nous tels que nous sommes et là où nous sommes, pour autant qu'on sache manier les pays. Et les pays, c'est la parole de Dieu. Les pays de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Dans l'Épître chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, les pays de l'Esprit. Une parole à propos qu'on envoie comme une épée, ça c'est les pays de l'Esprit. Une parole dite à propos devient les pays de l'Esprit. Et dans Hébreux 4:12, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, elle est comme une épée aiguë à deux tranchants. Et la parole de Dieu, maniée par quelqu'un qui la connaît, peut être un instrument extraordinaire. Dieu s'en sert. Cette semaine, justement, j'ai lu, en fin de semaine dernière, dans un train, en Russie, un chrétien lisait sa Bible. Il a voulu parler du Seigneur. Un autre voyageur, fâché, jette la parole de Dieu, prend la Bible, la jette par la fenêtre du train. Un peu plus tard, ce chrétien apprend quelqu'un qui a trouvé la Bible et qui s'est converti. Et qui s'est converti par la lecture de ce livre et qui a voulu être baptisé. Alors on voit la parole de Dieu puissante. Elle est toujours puissante, aujourd'hui comme toujours. Et les besoins sont grands. En venant ce soir, j'ai pris le métro pour aller chez notre frère, M. et Mme Martel, puis je me disais, mais il y a donc du monde à Montréal. Il y a donc du monde à Montréal, et du monde qui a des besoins, et qui a du travail. Il y a du travail, point de vue spirituel, et on peut faire ce travail que par la parole de Dieu, et on ne doit pas douter. La puissance de la parole de Dieu. On ne doit pas douter de la puissance de la parole de Dieu. C'est un livre vivant qui communique la vie, qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement les plus endurcis. Et même des fois, plus les gens sont pires, plus ça fait des bons chrétiens. Donc, Ehud savait manier la parole de Dieu tout en ayant un certain handicap au départ. Ensuite, on a Shamgar. Lui, Shamgar, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a battu 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Moi, j'étais élevé en ville, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un aiguillon à bœuf. J'ai demandé à ma femme, j'ai regardé le dictionnaire, après je lui ai demandé pour voir si elle savait. Elle a dit, on en avait chez nous. Elle était élevée en campagne. C'est un grand bâton avec une pointe de fer au bout, avec lequel on pique les bœufs. Parce que dans le temps, on labourait avec des bœufs. Puis il y en avait qui avaient la tête dure, un peu comme des ânes. Alors il fallait les piquer, il fallait les dompter avec un aiguillon à bœuf. Donc c'était une pointe de fer, pointe métallique au bout d'un grand bâton pour piquer, parce qu'on ne voulait pas s'approcher trop près. Eh bien, imaginez-vous, on voit dans ce début du livre des juges Les ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pillaient les récoltes. Et puis, ils privaient Israël de leurs armes. On le voit, ils n'avaient pas d'armes. Et ça nous parle aussi, dans un temps, comme dans ce temps-là, un temps triste, un temps où on pourrait dire qu'Israël était au creux de la vague, il n'y avait pas de nourriture. L'Israël n'avait pas à manger, il n'y avait pas d'armes. Et aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont dans le même état. Ils n'ont ni nourriture, ni armes. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, puis qui viennent presque pas aux réunions, qui sont sous-alimentés. On ne parle pas de ceux qui ont des responsabilités de famille, qui devraient certainement prendre garde de se nourrir en privé. Mais, et puis un mari chrétien, qui a une femme qui a des petits-enfants, il devrait voir à ce que sa femme ait de la nourriture aussi. C'est vrai, ça. Parce qu'un mari est responsable de sa femme aussi. Une femme qui ne peut pas venir aux réunions à cause qu'elle a des petits-enfants, bien, d'abord, son mari devrait prendre son tour, quand c'est possible. Puis, deuxièmement, il devrait voir à ce que sa femme ait de la nourriture. Je ne dis pas ça pour inquiéter personne. Je l'ai fait moi-même quand mon enfant était petit. Eh bien, lui, il n'avait pas d'armes. Avec un aiguillon à bœuf, il a battu 600 Philistins, un autre ennemi d'Israël. Eh bien, on sait que ce n'est pas marqué si c'était en une fois, si c'était en plusieurs fois, mais le fait est 600 Philistins qui ont été battus avec simplement un bâton et une pointe de fer au bout. Ça, c'est se servir des moyens du bord, des moyens à notre disposition. Les gens pouvaient dire, ah, mais si on avait telle chose, si on avait des grands moyens, si on avait un programme de télévision, si on avait ci, si on avait ça, si on avait... Si, on pourrait faire quelque chose. Mais lui, Shamgar, il se servit de ce qui était à la main, à sa disposition. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est se servir de ce qu'on a. De se servir de ce qui est en notre possibilité, on pourrait bien dire, ah, oh, mais si on avait un tel, si on avait ceci, si on avait cela. Il faut que les frères ici présents étudient leur Bible, puis qu'ils aient quelque chose à apporter à l'Assemblée. Il faut que chacun fasse sa part, d'une manière ou d'une autre, mais pas toujours se gargariser en disant, si on avait telle chose, si... Les Français disent, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. C'est vrai aussi, avec des si. Donc, se servir de ce qui est à notre disposition. Il y en a d'autres, on voit Samson, qui lui, malgré ses faiblesses, a quand même été un instrument dans la main de Dieu. On a Gédéon, dans le chapitre 6. Gédéon, qui battait du blé au pressoir, pas seulement pour lui, pour sa famille. On ne battait pas le blé au pressoir. C'est la chambre à battre. Le pressoir, c'était pour presser le raisin. C'était anormal, mais il voulait avoir... C'était Madian, savez-vous, c'était toujours deux autres ennemis. Il y avait toutes sortes d'ennemis, comme nous. On a toutes sortes de choses qui nous empêchent de nous développer spirituellement. Bien, Gédéon, lui, il nous montre qu'il avait à cœur de fournir la nourriture, non seulement pour lui, mais à sa famille. Un chrétien, un frère en particulier, qui veut être utile, bien, il essaye, fait son possible, devant le Seigneur, avec sa Bible ouverte, pour demander au Seigneur de le guider, peut-être avec d'autres bons livres, pour avoir quelque chose à donner à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. Pas toujours venir pour avoir quelque chose, mais pour avoir quelque chose à donner aux autres. Comme Gédéon, dans chapitre 6, vous pouvez le lire. Et bien d'autres, dans ce livre, tous ceux que Dieu a employés avaient, d'une façon ou d'une autre, un handicap ou une faiblesse au départ. Ils étaient faibles. Et Dieu se glorifie dans la faiblesse des instruments qu'il utilise. Alors j'espère que ces quelques réflexions, avec la lecture de la parole, vont nous avoir fait du bien et nous avoir stimulé. Vous savez, quand on entend la parole, on devrait se poser la question, il faut que ça change quelque chose. On pourrait aller à des réunions toujours, puis jamais rien qui se passe. Il faut que ça nous change. Il faut que ça nous fasse de meilleurs chrétiens. Alors j'espère que cette méditation va nous avoir engagés à être certainement plus utiles, plus courageux, et à ne pas attendre tous les autres, mais à que chacun de nous, dans la main de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, on puisse être tous ensemble, chacun à notre place, des frères et sœurs utiles les uns aux autres, pour le bien du corps. Prions. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de ta bonté, te remercier de ce que ta parole répond à tout, à toutes les circonstances. Et bien que ce livre ait été écrit il y a tellement longtemps, elle correspond encore à les besoins, aux besoins de ton peuple aujourd'hui. Elle peut nourrir nos âmes, elle peut nous équiper pour la bataille, elle peut nous rendre victorieux, vainqueurs, dans un monde où tout nous est opposé et contraire, et où même la chair en nous est rebelle à ton esprit. Notre Dieu, nous te demandons que tu bénisses ta parole, que tu bénisses l'assemblée ici, le témoignage rendu au nom du Seigneur Jésus, que tu renouvelles nos forces, que tu nous fortifies, jeunes et moins jeunes, que tu nous fasses du bien, et que le témoignage puisse rester debout jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus. Et nous nous remettons maintenant entre tes bonnes mains, priant pour tous ceux qui étaient absents, qui auraient désiré être ici, te demandant de les bénir chacun en particulier, au nom et pour la gloire de ton Fils. Amen.
Amen.
Chers amis, j'aimerais dire quelque chose en terminant. D'abord, je veux remercier de prier pour Sainte-Foy, en particulier pour notre jeune François Fréchette. Comme plusieurs savent, c'est un jeune homme de 31 ans, c'est le mari de notre fille aînée. Il s'est aperçu qu'il voyait mal l'été passé, puis il s'est révélé qu'il y avait une tumeur en arrière de l'œil, puis c'est une tumeur maligne, c'est très grave. Puis ils ont trois enfants, puis sa femme en attend un autre. Et puis actuellement, là, il doit aller à l'hôpital bientôt pour un examen. Sa tumeur n'a pas diminué ni grossi. Il a eu un traitement au cobalt. Puis le médecin espère que ça va neutraliser l'affaire. Il ne pense pas qu'il y a des métastases ailleurs, mais il a quand même dit que c'était peut-être possible. Alors évidemment, à la veille d'avoir un autre enfant, tout ça, puis il a beau être très confiant. Dimanche soir passé, celui qui a prêché à Sainte-Foy, puis il a parlé de la prière, mais avant il a donné son témoignage parce qu'on avait plusieurs inconvertis. Mais vraiment, c'est très touchant. Il est bien confiant dans le Seigneur. Puis il y avait dimanche passé une infirmière qui l'a soignée à l'hôpital, puis elle est convertie aujourd'hui, puis son mari aussi. Puis vraiment, vraiment merveilleux, parce que c'est tout de suite quand il était à l'hôpital, elle a vu qu'il lisait la Bible, et puis elle a demandé d'acheter une Bible. Et puis c'était des gens qui cherchaient beaucoup, et puis ils sont vraiment, je pourrais presque dire, en feu pour le Seigneur. Ils habitent à Sainte-Foy, mais jusqu'à maintenant, ils allaient à Saint-Romuald parce qu'ils allaient écouter François. Puis franchement, c'est très encourageant à ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, évidemment, c'est quand même une épreuve assez pénible pour notre famille. Alors, en privé, puis en assemblée, si vous voulez vous rappeler de François Fréchette et de son épouse Louise, priez pour eux, ce sera bien apprécié. En ce qui me concerne, j'ai pensé ce soir d'apporter quelques livres. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est parce que je veux vendre, parce que j'aurais à cœur de faire quelque chose pour vous. J'aurais à cœur, pour ce soir spécialement et uniquement, de vous offrir des livres, mais c'est surtout des livres choisis comme livres d'étude, pour aider surtout ceux qui veulent étudier la Bible, surtout les jeunes frères peut-être qui voudraient étudier pour avoir quelque chose à apporter à l'Assemblée. Alors je vous ferai un prix spécial, 50% d'escompte. C'est en bas du prix que ça me coûte. Mais j'ai reçu un don, quelqu'un qui m'a fait un don spécialement pour aider pour la littérature. Alors, j'aimerais vous en faire bénéficier. Si vous voulez, là, ce soir, maintenant, il n'y en a pas, peut-être pas pour tout le monde, mais vous pourrez prendre les commandes, puis je vous les enverrai, vous ne chargerez pas le port. Alors, c'est tout à fait spécial. Le but, mon but n'est pas commercial, il est spirituel, de vous aider. C'est tous des livres qui sont plus ou moins des outils de travail. On sait bien que le plus grand instructeur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Puis on peut s'instruire rien qu'avec la Bible, puis la Bible à référence, même sans référence. Mais évidemment, si on veut aller un peu plus vite, c'est toujours utile aussi de profiter des dons que le Seigneur a donnés à son Église. Ça va plus vite, puis ça, on peut aussi... Alors, si vous êtes intéressé, venez me voir après, je suis sur la table en arrière, puis on pourra régler ça. Maintenant, j'ai aussi encore quelques calendriers à Bonne Semence. Ça, je vous les donne. J'en ai reçu encore 200 gratuitement. Alors, je vous les donne, je ne fais pas un cadeau, on les a donnés. Puis j'ai quelques traités, puis j'ai aussi des petits dépliants sur des références bibliques qui aident beaucoup à étudier la parole. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on veut être utile, il faut connaître la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, vous pouvez venir après, on me fera plaisir de vous répondre.